Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir au psaume 22, où nous entendrons la lecture des versets 13 à 22, suivi de trois autres textes dans le Nouveau Testament.
Psaume 22, verset 13. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, ils se fondent au milieu de mes entrailles. Ma force dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent, ils arrêtent le regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. La lecture suivante est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Nous lirons les versets 17 à 19. Sur le point de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. » Puis, en l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 17 et 18, Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Et encore une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, les versets 13 à 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant la grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix.
Est-il nécessaire de respirer pour vivre? Bien de même, nous avons besoin du souffle de l'esprit pour comprendre et vivre la parole de Dieu, et nous comptons sur lui ce matin. Peut-être avez-vous déjà remarqué que souvent, vous trouvez une croix dans les églises. C'est d'ailleurs souvent ce qui marque symboliquement un lieu de culte chrétien. Pourquoi? Eh bien, parce que la croix est le message central du christianisme. La question d'aujourd'hui est donc d'une importance vitale ou capitale si vous voulez comprendre ce qu'est le christianisme présenté par la Bible. Parce que tout ce qu'on appelle christianisme ne l'est pas forcément. Tout ce qu'on appelle christianisme ne l'est pas forcément. Et le test de la croix permet de voir s'il s'agit du christianisme biblique ou non. Le test de la croix permet de savoir s'il s'agit d'un christianisme biblique ou non. Celui qui se dit chrétien et pour qui la croix n'a aucun sens réel et personnel n'est pas chrétien au sens biblique du terme. C'est un chrétien nominal. Quelqu'un qui prend le nom de chrétien, mais qui ne l'est pas. C'est une étiquette. Ça correspond pas à la réalité. Et beaucoup de personnes regardent le monde occidental comme étant chrétien. Mais c'est une étiquette, pas la réalité. Et si vous ne me croyez pas, alors vous pouvez aller dans la rue, poser la question suivante. La croix était-elle vraiment nécessaire? Et vous constaterez que très peu vous répondront un oui convaincu en disant que sans cette croix, je serais perdu pour l'éternité. Nous allons répondre à cette question. La croix était-elle vraiment nécessaire? Et pour ce faire, ce matin, nous le ferons en 5 étapes avec 5 questions. Des sous-questions, si vous voulez, qui nous permettent de saisir la réponse à la croix était-elle vraiment nécessaire? La première, nous verrons, la croix de Jésus-Christ, c'est quoi? Deuxièmement, la croix, pourquoi? Ce qui a provoqué la croix. Troisièmement, la croix de qui? Ce qui a motivé la croix. Quatrièmement, la croix pour quoi? Ce qui résulte de la croix. Et cinquièmement, la croix de Jésus-Christ et toi. La croix de Jésus-Christ et toi. Et mon but, après cette prédication, c'est que vous compreniez que la Bible présente la croix de Jésus-Christ comme étant l'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Rien que ça. L'événement le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et je souhaite que personne ici ne soit plus surpris d'apprendre qu'il s'agit d'un sujet de louange permanent dans les cieux. C'est un sujet de louange permanent dans les cieux, et que cela devienne le nôtre aussi. Donc commençons par cette première sous-question. La croix de Jésus-Christ, c'est quoi? Eh bien, la croix est un supplice horrible que l'on a de la peine à imaginer et à comprendre. On voit si souvent le symbole de la croix qu'on n'arrive plus vraiment à saisir l'atrocité de ce châtiment. Ce supplice a été imaginé de manière à faire souffrir la victime le plus longtemps possible et sans répit. Les mains et les pieds du condamné étaient cloués sur le bois après qu'il ait été fouetté et blessé de manière à voir la chair vive très sensible. Dès que la croix est montée, le supplice était si terrible. Si la personne se laissait aller de tout son poids sur ses bras, ses mains percées lui faisaient mal, le thorax était compressé et il n'arrivait plus à respirer. Et donc, réflexe du corps, il se redressait, s'appuyait sur les pieds percés qui lui faisaient mal, enfin, etc. Et qui frottait ce dos lacéré sur le bois rugueux. Olliot, dans son livre Un point de départ, dit « La crucifixion était une torture diabolique, garantissant le mouvement constant de la victime souffrante pour qu'il n'y ait aucun instant de répit, même très bref. » Alors, sans devoir continuer à énumérer tous les détails, nous comprenons que Jésus-Christ a souffert physiquement. Jésus-Christ a souffert physiquement. Mais Jésus a également souffert psychiquement. Jésus a souffert psychiquement à la croix, car il était exposé à la vue de tous de façon humiliante. Des personnes se moquaient de lui et il le raillait. Il était mis en spectacle. Jésus a souffert psychiquement. Jésus a également souffert moralement. Jésus a souffert moralement plus que quiconque ne souffrira. Car lui, l'innocent, a été fait pécheur à la croix. Il a pris sur lui tout notre péché. Et lorsque vous faites une mauvaise action, eh bien vous avez mauvaise conscience. Et plus l'action est grave et mauvaise, et plus cela vous poursuit et vous fait souffrir. Il y a même des personnes qui perdent la raison après certaines actions qu'ils ont faites. Après certaines actions du mal qui est irréparable. Et Jésus a porté une quantité astronomique de fautes. Imaginez la souffrance. Jésus a souffert moralement sur la croix. Jésus a également souffert relationnellement. Jésus a souffert relationnellement plus que tous ceux pour qui il est mort ne souffriront. Il était abandonné par son peuple, il était abandonné par sa famille, il était abandonné par ses disciples les plus proches. Et le pire de tout, il a été abandonné de Dieu. Et comprenez bien cet abandon. Le lien avec la bonté de Dieu a été totalement coupé. Plus aucun bien ne venait de Dieu, uniquement la colère et le jugement. Vous savez, l'abandon de Dieu, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est lorsque Dieu ne montre que sa colère et son jugement. Il n'y a plus aucune bonté, bienveillance, amour et miséricorde. C'est quand il applique le jugement, la sentence. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. La croix, c'est le lieu où Dieu manifeste son jugement, où il déverse sa juste colère contre le pécheur condamné. C'est là que la conséquence annoncée du péché est exécutée, souffrance et mort. Mais la souffrance ne vient pas de Dieu et la mort non plus. C'est la conséquence du péché. Il avait été dit, si tu désobéis, tu mourras. C'est la désobéissance qui a amené la souffrance et la mort, pas le Créateur. Donc lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, nous parlons d'une peine. Lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, nous parlons d'une peine suite à un jugement et une condamnation. Une peine suite à un jugement et une condamnation à mort, supportée par un homme Dieu, Jésus. C'est ça la croix de Jésus-Christ. Lorsque nous parlons de la croix de Jésus-Christ, nous parlons d'une peine suite à un jugement et une condamnation à mort portée par un homme Dieu, Jésus. Il est intéressant de noter que ce jugement, le jugement qui a précédé la mise en croix de Jésus-Christ, a démontré l'innocence de la victime. Ni les juges juifs, ni les Romains n'ont trouvé un quelconque motif de faute en Jésus. Et de nombreux témoignages attestent que c'était un homme juste. Mais alors, pourquoi a-t-il été condamné à mort si c'était si clair qu'il était innocent? C'est notre deuxième question qui nous aidera à y répondre. La croix, pourquoi? Pourquoi? Quelles sont les raisons de la croix? Qu'est-ce qui a déclenché cette horrible peine? Pourquoi? Vous reconnaissez peut-être les quatre mots qui résument l'enseignement de la Bible entière. Quatre mots. Création, chute, rédemption, glorification. CCRG si vous voulez. Création, chute, rédemption et glorification. Après la création qui était très bonne selon Dieu et dans laquelle il n'y avait pas une miette de mal, l'homme n'a pas écouté son Créateur et lui a désobéi. C'est ce que nous appelons la chute. Et la croix est l'élément clé de la rédemption. La croix, c'est l'élément clé de la rédemption. Sans cette clé, il est impossible d'ouvrir la porte de la rédemption qui ensuite est suivie de la glorification. La croix, c'est l'élément clé de la rédemption. Et sans cette clé, il est impossible d'ouvrir la porte de la rédemption qui ensuite sera suivie de la glorification. Et l'homme, donc, en désobéissant à Dieu, a choisi de se séparer de Dieu. Ce qui signifiait la mort éternelle, la condamnation, le jugement, la conscience salie, la colère de Dieu. Ce qui a pour conséquence que l'homme est devenu esclave du péché. Un acte de justice a été écrit contre l'humanité qui, par sa nature, pratique le péché. C'est ce qu'on appelle un état perdu, sans espoir de bonheur éternel, mais un juste châtiment qui attend toute personne lorsqu'il doit rendre compte de sa vie devant le Créateur. Voilà ce qui a provoqué le besoin de la croix de Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce que je peux dire cela? Eh bien parce qu'il est écrit. Il est écrit plusieurs choses que nous allons voir maintenant. Premièrement, dans Romains 5:10, que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. En fait, nous sommes séparés et la croix de Jésus-Christ nous réconcilie. Nous sommes séparés de Dieu et la croix de Christ nous réconcilie. En Hébreux 9, 14, il est dit que le sang de Christ purifie. Nous sommes souillés et la croix de Jésus nous purifie. Nous sommes souillés. Voilà des raisons, hein. Mais la croix de Christ nous purifie. En Romains 8, 34, il est dit que personne ne condamne ceux pour qui Jésus est mort. Pourquoi ? Parce que nous sommes condamnés. Et la croix de Christ nous justifie. Nous sommes condamnés, mais la croix de Christ nous justifie. En Jean 4, 10, il est dit que Dieu a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour notre péché. Ou dans Hébreux 9, 28, que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés. Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés. En fait, nous devons payer le prix de nos péchés. Voilà notre situation. Nous devons payer le prix de nos péchés. Et la croix de Jésus les expie. La croix de Jésus les expie pour nous. C'est là qu'il les porte. Apocalypse 5, 9, dans un cantique dédié à Jésus, il est dit « Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. » Nous étions asservis, ou nous sommes asservis. La croix de Jésus nous rachète. Nous sommes asservis et la croix de Jésus nous rachète. En Apocalypse 1.5, il est dit que Jésus-Christ nous a délivrés de nos péchés par son sang. En Éphésiens 1.7, en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Nous avions ou nous avons une dette. Un poids immense, si vous voulez. Et la croix de Jésus nous en délivre. Nous avons une dette, un poids immense. Et la croix de Jésus nous en délivre. Colossiens 2, 14, que vous avez aussi sur votre droite devant vous, où il est dit « Dieu a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Un acte de jugement était rédigé contre nous. La croix l'a supprimé. Un acte de jugement était rédigé contre nous et la croix l'a supprimé. » La croix, pourquoi ? La croix était-elle nécessaire ? Oui, elle était nécessaire. Parce que l'homme, par son péché, était perdu et condamné au jugement éternel. Voilà pourquoi la croix était nécessaire. Mais qu'est-ce qui a motivé Dieu et Jésus-Christ à accomplir cette œuvre étrange et extraordinaire ? C'est la question suivante qui va nous permettre d'y répondre. La croix de qui ? La croix de qui ? Eh bien, premièrement, c'est la croix d'un Dieu totalement juste. C'est la croix d'un Dieu totalement juste qui ne va jamais considérer un coupable comme innocent si sa peine n'est pas exécutée. C'est la croix d'un Dieu totalement juste qui ne va jamais considérer un coupable comme innocent si sa peine n'est pas exécutée. Mais qui ne va pas traiter un innocent pour coupable lorsque sa peine est purgée. Il ne va pas traiter un innocent coupable lorsque sa peine est purgée. C'est la croix d'un Dieu juste. Et à la croix, il se passe quelque chose de très fort. C'est que celui qui est mis en croix, Jésus-Christ, est brisé par la souffrance. Qui est-ce qui brise Jésus-Christ par la souffrance à la croix ? Est-ce notre péché ? Est-ce Satan, l'ennemi juré de Dieu, l'incitateur du péché ? Qui brise Jésus sur la croix par la souffrance ? Mais cela avait été annoncé des centaines d'années avant sa révélation. C'est Ésaïe qui nous le dit. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance après s'être offert en sacrifice de culpabilité. C'est Dieu lui-même. Parce que la croix n'est pas un lieu de vengeance de Satan, Même s'il a été pleinement actif avec toute sa fureur comme exécuteur du juge souverain. Mais c'est Dieu qui jugeait Jésus qui a été fait péché pour nous. Et la juste colère de Dieu, qui n'est pas une colère sanguine, hein, mais une colère de justice, est tombée sur lui. Jésus s'est chargé de nos péchés et ainsi subit la souffrance et la mort éternelle que méritaient nos péchés. Et c'est parce qu'il était Dieu que Jésus a pu payer un prix éternel. Personne d'autre qu'un être éternel ne peut payer une peine éternelle. C'est parce qu'il est Dieu que Jésus a pu payer un prix éternel. Et c'est parce qu'il est homme qu'il a pu payer à notre place. La croix de Jésus-Christ montre la justice de Dieu. Le jugement est tombé, la sanction annoncée est purgée, la justice est accomplie. La croix de Jésus-Christ montre la justice de Dieu. Le jugement est tombé, la sanction annoncée est purgée, la justice est accomplie. La croix de qui ? Nous avons vu la croix d'un Dieu totalement juste. Deuxièmement, c'est la croix d'un Dieu totalement amour. C'est la croix d'un Dieu totalement amour qui le manifeste en venant se donner lui-même pour payer le prix de désobéissance à son égard. C'est la croix d'un Dieu totalement amour qui le manifeste en venant se donner lui-même pour payer le prix de désobéissance à son égard. Et cette peine, il est venu la purger avant même que ceux pour qui il la subissait ne l'aiment et ne le comprennent. Avant. Vous connaissez ce texte dans Romains 5, verset 8, sinon je vous encourage à le placer dans votre cœur, où il est dit, mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. L'histoire du Père juge peut nous aider à comprendre. Hein. Donc, imaginez un fils rebelle et violent être arrêté pour coups, blessures et vols. Et il comparaît devant le juge qui n'est autre que son propre père. Mais celui-ci, agissant en juge, vint donc juger son fils de manière juste et le condamner au remboursement de ses vols, aux frais de dédommagement et à des jours de travaux d'utilité publique. Puis, une fois le jugement rendu, par amour pour son fils qui ne pouvait pas payer, il rembourse le vol, il paie les dédommagements et fait les jours de travaux d'utilité publique à la place de son fils, à qui il demande de se détourner de sa mauvaise vie et de suivre son exemple. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Dieu ne veut pas que le pécheur meure. Et il l'a prouvé en venant se donner comme aucun autre faux Dieu, aucune idole ou aucun gourou quelconque ne l'a fait et ne le fera jamais. Mais Dieu ne va forcer personne de croire en lui. Il est encore temps de répondre à la dernière parole, à la première parole de Jésus-Christ dans l'évangile selon Marc. Les premières paroles de Jésus dans l'évangile selon Marc, c'est « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et dans son amour, Dieu use de patience. Voilà pourquoi il n'est pas encore venu pour juger le monde. C'est parce qu'il use de patience. Il est dit dans 2 Pierre 3, 9, « Dieu use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que nous arrivions à la repentance. » N'allons pas prendre du temps aujourd'hui, mais je vous encourage à le méditer, pour réfléchir à toutes les manières que Dieu utilise pour manifester son amour. Mais nous retiendrons que la croix est une preuve éclatante de son amour. Il s'est donné lui-même. La croix de Jésus-Christ est la croix du Dieu juste et amour à la fois. La croix réunit ensemble ce qui ne peut l'être, afin d'en faire sortir ce que l'on appelle la grâce. Lorsque Dieu fait grâce, il en a payé le prix. C'est pas seulement un « je te pardonne ». Non, c'est « j'ai payé le prix de ton péché, il est effacé, je t'ai pardonné ». La croix était-elle nécessaire ? Oui, pour manifester la justice et l'amour de Dieu dans sa grâce. Mais ce n'est pas tout. La croix a bien plus de conséquences. Quatrième question, la croix pour quoi ? La croix pour quoi ? La croix en vue de quoi ? Pour quelles conséquences ? Être sauvé de la mort, libéré de l'esclavage, racheté et tout ce que nous avons déjà vu ? Oui, et c'est merveilleux. Mais cela continue, et je vous en donnerai quatre autres raisons, pour ne pas être trop long, mais on pourrait bien sûr prolonger la liste. Première raison, ou première conséquence, la croix amène un sens au mariage beaucoup plus profond qu'il ne pouvait l'être avant la croix. Vous saviez ça ? La croix amène un sens au mariage beaucoup plus profond qu'il ne pouvait l'être avant la croix. Voici ce qui est dit dans Éphésiens 5, 25. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est la croix qui nous permet de le comprendre. La croix donne un sens très profond à cette relation humaine que Dieu a mis en place. Et si l'homme a pour exemple le Christ dans l'amour qui se donne, la femme a aussi Christ, pour exemple, dans la soumission qui se donne. Méditez la relation de Christ avec le Père et tout ce que la croix signifie, alors que le Fils et le Père, comme femme et mari, sont parfaitement égaux. La croix amène au mariage un sens bien plus profond. Deuxième élément, la croix donne un libre accès à Dieu. La croix donne un libre accès à Dieu. Voici ce qui est dit dans Hébreux 10, 19. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Nous avons l'assurance d'un libre accès. Dans l'Ancien Testament, avant la croix, il n'était pas possible pour tout le peuple d'entrer dans le lieu très saint, où Dieu manifestait sa présence. Seul le souverain sacrificateur y entrait, et encore une fois par année. À la mort de Jésus, à la croix, donc quand on a un petit peu ça en tête, on comprend mieux ce qui s'est passé. À la mort de Jésus à la croix, le voile qui arrêtait toute personne qui voulait entrer dans le lieu très saint a été déchiré de haut en bas, sans la moindre aide humaine. L'accès était libéré. Car le sang de Jésus couvre nos fautes et nous permet de nous approcher du Dieu saint comme un Père aimant. Ça, c'est l'œuvre de la croix. La croix donne un libre accès qui n'existait pas avant. Troisième élément, la croix coupe court à toute discrimination. La croix coupe court à toute discrimination. Si avant la croix, il y avait un peuple privilégié, que le seul fait d'y être né donnait des avantages, et uniquement d'ailleurs les hommes portaient le signe de l'alliance, c'est fini aujourd'hui. Personne ne peut dire qu'il est avantagé devant Dieu par ses origines, sa couleur, son sexe ou son lieu de vie. Éphésiens 2, 11 à 14 nous dit ceci. Regardez avec moi, Éphésiens 2, 11 à 14. Souvenez-vous donc de ceci. Autrefois, vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, on voit bien la séparation. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, la croix. Par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation de l'inimitié. Dans Galates 3, 28, il nous est dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Christ. Et d'ailleurs, intéressant de noter que le signe de la nouvelle alliance, le baptême, est pour tous, hommes et femmes, sans distinction. Par le sang de Christ, En Christ mort et ressuscité, il y a unité et égalité de valeur. Il a payé le même prix pour chacun. Il a payé le même prix pour chacun. La croix coupe court à toute discrimination. Et quatrièmement, la croix mène à la réconciliation les uns avec les autres. La croix mène à la réconciliation les uns avec les autres. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 18, « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » On voit bien la croix, il y a le vertical, hein, ça c'est ce lien de réconcilier avec Dieu, et la partie horizontale, réconciliation les uns avec les autres. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le service de la réconciliation. L'enseignement de l'artisan de paix souligne que l'évangile de la croix est le centre. L'évangile que j'appelle aussi la rédemption de ce cadre est la base de l'artisan de paix. Parce qu'il glorifie Dieu dans toutes les situations relationnelles parce que son rédempteur s'est donné pour lui à la croix. Il enlève la poutre, il prend la responsabilité de son péché, car son Rédempteur a payé à la croix. Il reprend avec douceur, car le Rédempteur de son agresseur est aussi mort à la croix. Il reconstruit par le pardon, car c'est ce qu'a fait son Rédempteur à la croix. Et il cherche constamment à vivre réconcilié avec ceux qui l'entourent, car il pense à son Rédempteur qui s'est donné à la croix pour cela. La croix amène à la réconciliation les uns avec les autres. Je ne vous ai donné que quatre éléments, on pourrait continuer. Et en continuant, toujours plus, je l'espère, on pourrait dire comme l'apôtre Paul que nous en sommes fiers. La croix est un sujet de fierté. Hein, quant à moi, certes non, vous connaissez ces paroles de Paul peut-être dans Galates 6, 14. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis du monde. La croix, était-elle nécessaire? Oui, car elle amène un sens beaucoup plus profond au mariage. Elle donne un libre accès à Dieu. Elle coupe court à toute discrimination. Elle mène à la réconciliation et tant d'autres choses. La croix devrait gentiment être pour nous un sujet de fierté. Est-ce le cas pour toi? On arrive à la cinquième question. La croix de Jésus-Christ et toi? Voici ce qui est dit dans 1 Corinthiens 1, 22. Il dit ceci, « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. » Est-ce que la croix de Christ est scandaleuse pour toi? Est-ce que la croix de Christ est scandaleuse pour toi, dans le sens qu'on ne peut pas l'accepter? Une religion de sang, selon certains, puisque c'est le sang qui purifie, c'est le sang dont nous nous souvenons, cette croix sanglante. Hein, souvent, j'ai déjà entendu ça, c'est une religion de sang. Alors à ceux qui pensent cela, je ne peux que dire que le sang a coulé qu'une fois. Et si nous parlons régulièrement de ce sang, ce n'est pas parce que nous aimons le sang, mais c'est parce qu'il est tellement précieux. Il a une signification si grande. Qui d'ailleurs nous pousse à ne plus le verser. D'autres diront que c'est scandaleux, parce que c'est pas normal qu'un autre paye. C'est celui qui fait la faute qui doit payer, c'est pas un autre. Eh bien, ceux qui pensent cela, je leur pose une autre question. Comment répondre alors, lorsque nous nous rendons compte qu'il est impossible de payer? Est-ce que la croix est une folie pour toi? Trop beau pour être vrai, trop facile pour simplement y croire. C'est ça la folie, c'est la folie. Mais es-tu plus intelligent que celui qui a donné l'intelligence? Le Tout-Puissant n'est-il pas capable de faire ce qu'il veut et rendre le salut accessible aux plus humbles? Et troisième question, vous l'attendez, est-ce que la croix est une puissance de Dieu pour toi? Est-ce que la croix est une puissance de Dieu pour toi? Le rachat, l'assurance, l'espérance, la douleur du péché, la joie du pardon, la grâce abondante, le centre de l'histoire de l'humanité, la clé de compréhension de tout l'Ancien Testament qui annonçait la croix par les sacrifices et par d'autres préfigurations. Est-ce que c'est le socle de toute transformation, l'étendard de la victoire où il est écrit « La mort est morte à la croix ». L'abri, la forteresse au temps de l'épreuve et de la tentation. Est-ce que les paroles de ce chant que je vais lire sont les tiennes en regardant Jésus à la croix? Rédempteur, adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Est-ce que Jésus te répond ainsi en disant, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme mon amour te sauva, je mourus pour ton âme, pécheur, à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Allez-vous répondre? Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur, prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie, à ta gloire, ô Jésus. En conclusion, j'aimerais vous lire un passage biblique très connu. Il se trouve dans l'évangile de Jean, c'est le verset 16 du chapitre 3, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Crois-tu en lui? Peux-tu dire de tout ton cœur les paroles d'un autre chant que je vais te lire? Les chants sont remplis de louanges par rapport à ce que Christ a fait. Viens, mon âme, et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix. On le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage. Il expire enfin sur le bois. C'est moi que la justice condamnait au supplice. Moi qui devais mourir. Les tourments, les blessures, les coups, les meurtrissures, c'est moi qui devais les souffrir. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée d'épines couronnées, tu portes ma confusion. Je te suis redevable, mon sauveur adorable, tout ce que je suis. Mon âme, tout mon être, à toi seul doivent être. C'est le droit que tu t'es acquis. La croix, était-elle nécessaire? Oui, elle était nécessaire. Si elle était si sanglante et horrible, c'est à cause du péché qui ne l'est pas moins. Et la croix devrait nous pousser à fuir l'effroyable désobéissance de Dieu. Dieu pouvait-il faire autrement? Eh bien, je n'ai pas la réponse de l'hypothèse divine. Mais je peux vous dire que ce qu'il a fait est parfait. Cela manifeste autant sa justice que son amour et nous donne la joie du salut. Lorsqu'il fait grâce, il en a payé le prix. Et je ne vois pas comment d'autre il s'y serait pris pour nous sauver si complètement. Je lui fais confiance et je me réjouis. Et j'espère vous aussi avec moi, je me réjouis d'en voir la pleine manifestation lors de son retour. Il l'a parfaitement accompli, il va parfaitement le manifester au jour où nous serons dans un lieu sans mort et sans péché. Prions. Éternel notre Dieu, c'est vrai que nous nous sentons bien petits lorsque nous nous retrouvons devant cette croix pour saisir un peu ce qu'elle signifie, un Dieu qui fait tout, qui est tout puissant, qui est au-dessus de tout, qui devient homme, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Mais non seulement cela, mais tu es venu et tu t'es humilié jusqu'à la croix pour que nous puissions être purifiés, pardonnés, afin que l'accès auprès de toi puisse être libéré et que nous puissions t'appeler Père. Le prix de l'adoption est énorme. Il manifeste la grandeur de ton amour pour nous. Nous voulons, Seigneur, te dire merci et te prier de nous aider à encore mieux saisir cette œuvre. Et qu'à cette question, la croix était-elle vraiment nécessaire, nous puissions répondre que oui, parce que tu as choisi ce moyen pour nous sauver. Sois loué, sois béni, sois adoré, et que beaucoup puissent encore saisir la puissance de cette croix, puissent saisir la profondeur de l'enseignement de cette croix dans tous les domaines de notre vie, et que nous puissions en être puissamment fortifiés. Ô Seigneur, que ton esprit agisse dans nos cœurs pour que nous puissions en être saisis et convaincus. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.